Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, comment vivre sans théâtre, cinéma, concert ? À l'heure de ce second confinement où la plupart des pays européens ont choisi de fermer les lieux culturels pour freiner la crise sanitaire, on s'interroge. Quelle place pour les arts vivants en cette période de pandémie ? Pour en parler aujourd'hui, un invité, nous recevons Robin Renucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien et metteur en scène, mais aussi président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux. C'est 38 scènes nationales qui maillent le territoire français. Alors la musique qu'on entend actuellement, c'est celle qui accompagne un appel lancé par la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier. Dans une vidéo, plus d'une centaine d'artistes esquissent chacun des pas de danse pour alerter sur cette nécessité, ce besoin de l'art au quotidien. Et vous-même, avec 350 directrices et directeurs de lieux culturel, vous venez de publier une lettre ouverte demandant au président français la réouverture des théâtres. C'est possible selon vous ?
Eh bien, les lieux de théâtre, ce sont des lieux qui n'ont pas prouvé leur aspect contaminant dans la salle. En France, vous le savez sans doute, le milieu ecclésiastique, et notamment l'église catholique pour ses fidèles, a demandé la réouverture des églises. Dans une église, on peut chanter sous son masque, on peut proférer sous son masque. Au théâtre, le public en général ni n'exulte, ni n'exulte. Exprime de parole, donc voilà, c'est un lieu sain.
Donc vous vous dites prêt à une rouverture immédiate ?
Nous sommes prêts, bien sûr, nous sommes prêts, car nous avons vu comment le public a répondu présent lorsque nous avons ouvert en septembre les lieux, les témoignages de leur joie. Nous sommes prêts parce que les équipes continuent à répéter les spectacles depuis quelques semaines et que bien, nous attendons que le public pour exister pleinement.
Contrairement au premier confinement, cette fois, le secteur du spectacle vivant avait obtenu que la création artistique puisse continuer grâce au maintien des répétitions de spectacles à huis clos, au maintien aussi des enregistrements d'œuvres sans public. C'est insuffisant selon vous, Robin Renucci ?
Oui, c'est insuffisant. Il faut nécessairement que le public soit présent désormais. Il faut aussi que la jeunesse, qui est extrêmement sollicitée par les moyens de culture, notamment numérique, et parfois désymbolisant des programmes qui viennent détricoter ce que l'école fait en ce moment. L'école est ouverte. Pourquoi les jeunes gens ne pourraient-ils pas aller dans des lieux comme les nôtres, que sont des centres dramatiques, très sains, comme je l'ai dit, par petits groupes, assister à des répétitions, voire même des spectacles dans des conditions sanitaires draconiennes, mais qu'on a dit tout à l'heure être totalement sauves. Donc, il y a la nécessité de retrouver le public. C'est nécessaire. Le théâtre et l'art, c'est un lieu de partage, c'est un lieu qui relie les gens par le physique, corporellement, par la voix, par le regard, c'est irremplaçable. Aujourd'hui, c'est cela qu'il faut nécessairement rapidement, très rapidement reconstruire, sinon nous assisterons à un confinement mental. Et il y a beaucoup de déséquilibre aujourd'hui dans la jeunesse française qui est exprimée, et ce confinement est très préjudiciable à la santé mentale.
On va continuer à parler de ces questions tout au long de l'émission, mais d'abord je vous propose un détour par l'Autriche. Depuis une semaine, le pays est repassé à un confinement complet, couvre-feu, fermeture des écoles et de tous les lieux accueillant du public, sauf les magasins d'alimentation. Alors depuis l'arrivée de cette pandémie, ce qui est interdit ou autorisé, pour qui et quand, n'a cessé de changer, mais une constante, c'est le monde de la culture qui quasi systématiquement est touchée par ces interdictions. Résultat, les directeurs d'établissements culturels en Autriche font entendre leur grogne et leur inquiétude. C'est un reportage de Céline Béal.
Les marches du grand musée d'art Kunsthistorisches Museum de Vienne mènent à une porte close. Le lieu est désert, mais une installation temporaire suspendue au-dessus du palier diffuse une musique expérimentale. C'est ici que Florian Krumpöck nous a donné rendez-vous, à l'extérieur, pour prévenir une contamination à la Covid-19. Ce pianiste réputé et organisateur de festivals vient d'annoncer son intention de porter plainte contre le gouvernement autrichien en janvier prochain, et ce, auprès de la Cour constitutionnelle. Car selon lui, la mise à l'arrêt de la vie culturelle dans son pays n'est pas justifiée. Les musées, théâtres et autres institutions ont mis au point des protocoles sanitaires pointus qui auraient dû leur permettre de continuer à travailler.
Respect des distances de sécurité, port du masque obligatoire pendant les manifestations culturelles et surtout enregistrement des spectateurs pour permettre de retrouver les éventuels cas contacts. Pour tout ça, nous avons joué un rôle précurseur bien avant les restaurants et cafés. C'est pour cela que c'est une réponse disproportionnée de nous obliger à être les premiers à fermer et les derniers à avoir le droit de rouvrir.
La liberté de l'art est inscrite dans la Constitution autrichienne. Pour Florian Krumpöck, elle n'a donc pas moins de valeur que les autres droits fondamentaux, bien au contraire.
Je crois que les arts et la culture ont un rôle éducatif, mais aussi politique. D'ailleurs, je trouve cela très problématique que les théâtres soient fermés en ce moment. Les théâtres et les scènes de cabaret subversif, par exemple, sont des critiques majeures de la politique. Donc cela me laisse un arrière-goût suspect. Mais aussi, les liens du monde culturel avec l'éducation sont énormes. Pourtant, dans l'arrêté actuel, les théâtres, musées, opéras et salles de concert se retrouvent entre les salles de paintball et les maisons closes. Et les maisons closes sont même citées avant.
Pour cet organisateur de festivals et musicien, son travail n'est pas moins indispensable que celui de beaucoup de commerçants ou même des églises qui sont soumises à des restrictions moins sévères. Pour les quelques passants rencontrés à proximité du musée désert, le manque d'art se fait cruellement ressentir.
Mais ça manque, bien sûr, parce qu'ici à Vienne, on est dans une ville, c'est l'art ici, c'est la ville de l'art. Et ça manque aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On s'ennuie un peu, parce qu'on n'a rien à faire maintenant.
Netflix, etc.
Tout se passe à la maison, mais Netflix, etc., ce n'est pas vraiment un plaisir comparable. Le cinéma, ça a un charme particulier qu'on ne peut pas reproduire chez soi.
Évidemment que ça nous manque, parce que maintenant on aurait le temps d'aller au musée, vu qu'il y a plein de gens dont le travail est partiellement réduit. Mais bon, la pandémie va passer, on sera heureux quand on pourra à nouveau profiter de toutes ces belles choses. On ne les considérera plus comme acquises.
À quelques rues de là, près de l'une des principales gares de la capitale, la petite salle d'exposition à but non lucratif Philomena Plus est également fermée. Normalement, Christine Bruckbauer organise ici des rencontres entre des artistes autrichiens et des créateurs ou acteurs de la société civile du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le mois dernier encore, la plasticienne canado-pakistanaise Tazine Kayoum avait pu présenter à Vienne une œuvre mêlant le dessin et la performance accompagnée d'un musicien viennois d'origine palestinienne, Marwan Abado, avec pour le public masque et distance de sécurité entre les chaises. Mais les échanges internationaux sont maintenant limités et les lieux d'art n'ont plus le droit d'accueillir du public. La curatrice de Philomena Plus ne jette pourtant pas l'éponge. Elle mise sur des formes alternatives d'exposition via Internet ou dans la vitrine de sa galerie. Christine Bruckbauer.
Ce n'est pas pareil, mais c'est quand même quelque chose. Je trouve que c'est une question d'équité. Beaucoup de mes collègues ont annulé leurs expositions. Pour moi, c'était important de ne pas le faire parce que certaines des œuvres sont des commandes et les artistes y ont travaillé pendant longtemps. Il faut montrer leur travail. C'est un moyen de le faire et nous espérons une réaction positive du public.
C'est aussi une question financière. La salle d'exposition Philomena Plus n'existe que grâce à des subventions. Celles-ci ne sont versées que si la structure montre de nouveaux projets. Mais aussi, Christine Bruckbauer est persuadée que les Viennois ont plus que jamais besoin d'art pour prendre du recul sur les événements. Avant le second confinement, elle a organisé un vernissage sur le large trottoir devant Philomena.
Il y a un monde incroyable qui est venu. On a vraiment senti que les gens avaient une véritable faim, un appétit fou pour l'art. C'est ce que nous a montré cette année et c'est aussi pour cela que nous continuons à travailler. Et puis, exposer dans l'espace public a l'avantage de nous permettre de toucher des personnes qui ne seraient sinon peut-être pas en contact avec de l'art contemporain. Et ça, c'est excitant.
Sur la vitrine de la galerie fermée, on voit encore les traces d'une autre performance de l'artiste Tazine Kayoum. Au feutre noir, elle a tracé une grande spirale formée d'un mot répété d'innombrables fois, « sakoun », qui renvoie dans la langue ourdou à un passage d'un état actif au calme, au silence, à la réflexion. Comme une annonce ou une recommandation pour le temps revenu du confinement sans vie culturelle.
Robin Renucci, vous pensez que cet isolement, cette solitude mentale qui est décrite un peu dans ce reportage est sous-estimée par les autorités ?
Oui, je pense. Comme vraiment, je vous remercie de ce bon reportage, en fait, qui a deux versants. D'un côté, la vision et l'approche actuelle de l'art et de la culture par les gouvernants, qui est édifiante, puisque tellement réductrice. Et la deuxième partie, qui parle des liens internationaux, qui témoigne, en fait, de la volonté et de la capacité que nous avons d'être davantage nous-mêmes en étant en échange avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Et toute la singularité des unes et des autres provoque un accomplissement de notre propre individuation. Et ça me touche d'autant plus que cela vient de l'Autriche, un lieu où l'on sait que les nationalismes sont croissants pour certains et les pensées de repli peuvent mener une danse politique. Là, on entend la résistance des artistes, on entend le public également, la demande de certaines parties du peuple qui a besoin de cet oxygène qu'apporte en effet l'écoute de la différence de l'autre, dont l'art est le premier vecteur, le viatique. Et je trouve le combat de ces directeurs de théâtre ou de lieux culturels presque en avance, je dirais, sur notre pays, parce que porter plainte, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est un acte beaucoup plus fort qu'il ne nous est possible de faire en France. Il y a des droits culturels en France que nous avons, mais la présence de l'art comme une nécessité absolue reste performative, si je puis dire, c'est-à-dire dans des propos politiques, mais très peu dans la loi, réellement.
Ce rôle très politique de l'art est moins assumé en France, c'est ça que vous voulez dire ?
Il y a eu des époques, vous savez, nous avons eu des présidents de la République où le duo, je dirais, du ministère de la Culture et de la Présidence était totalement conjoint, c'est-à-dire le rapport de Charles de Gaulle avec André Malraux. Il est clair que dans les années 59, à la création de la Ve République et dans les moments de sortie de l'après-guerre et de ces terribles méfaits, crimes, il fallait reconstruire une unité avec la pensée artistique, et Malraux l'a incarné avec le général de Gaulle. Un peu plus tard, Jack Lang et François Mitterrand ont été porteurs de nouveaux élans d'une dimension culturelle, avec une augmentation absolument conséquente du budget de la culture. Depuis, il est vrai qu'il y a des cadences qui ne sont pas les mêmes dans la danse que dansent les présidents de la République en France avec leur ministre de la Culture. Et il faudrait en effet retrouver cette nécessité pour la France, lieu de la laïcité, lieu des lumières et d'une philosophie, des arts très très puissantes, de retrouver cette place en effet pour le public qui le mérite, et de donner aussi le ton internationalement. Aujourd'hui, je trouve que les propos que j'ai entendus de l'Autriche me sécurisent sur l'Europe, par exemple. Je trouve qu'il en vient là, de l'Autriche, des pensées très fortes et très riches pour tous.
Robin Renucci, vous êtes également membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Début novembre, vous avez perdu l'arbitrage sur l'assouplissement du couvre-feu pour les salles de spectacle et de cinéma. Vous pensez qu'il en sera autrement cette fois ?
Nous devons tout faire pour cela. C'est pourquoi nous avons contribué à l'écriture d'un texte qui paraît aujourd'hui dans les médias en France, vraiment pour demander au président de la République de ne pas traiter les lieux de culture comme des lieux de commerce non nécessaires. Ils ont fait l'erreur, je pense vraiment, de rater l'occasion de montrer que le livre et les libraires étaient des lieux d'absolue essentialité. Les théâtres, on peut penser que se réunir ensemble, puisque nous sommes touchés à l'endroit cardinal, unir et rassembler le projet des lieux de théâtre. Il est prouvé que le public qui se tait masqué est encore moins sensible au virus que quelqu'un dans un TGV. Vous savez qu'en France, nous prenons les trains avec beaucoup de monde à côté de soi qui parfois justement parle dans le théâtre. Encore une fois, on ne parle pas quand on est spectateur. Je pense qu'il faut que l'État reconsidère cette question de la jeunesse et des lieux de culture pour permettre à tous les jeunes demain, très vite, de retrouver les lieux de théâtre, qu'à l'école il y ait toujours l'entrée dans le partenariat des artistes et des enseignants qui soit renforcée. Il a été amenuisé cet an dernier du fait bien sûr de la Covid-19, mais aussi de Vigipirate, évidemment, comme en Autriche et comme dans d'autres pays. Cette question du terrorisme fait que cela éloigne les artistes et l'art de l'école. Nous prônons une éducation par l'art plutôt même qu'une éducation à l'art. Pour faire court encore, je dirais que c'est pas tout à fait la même chose que d'apprendre l'histoire des natations au cours des siècles que d'aller à la piscine. Et rien ne remplace l'idée d'aller à la piscine, nager. Or, à l'école, il faut que les enfants pratiquent l'art pour en recevoir tout l'essentiel de sa transformation.
Robin Renucci, je vous propose une nouvelle fois de voyager un peu avec nous, et jusqu'en Lituanie cette fois, ce petit pays balte voisin de la Pologne et de la Biélorussie. Le schéma y est similaire à celui de la France. Début novembre, avec la recrudescence des cas de Covid, la Lituanie a imposé la fermeture des lieux culturels, mais pas des magasins. La frustration est intense et les directeurs de musées ont donc publié une tribune pour demander leur réouverture. Les explications de Marielle Vitureau.
Du premier confinement, les musées avaient tiré toutes les conséquences. Nouvelle gestion du nombre de visiteurs, audioguide à télécharger dans son téléphone, système d'aération renforcé et mise à disposition de gants jetables pour pouvoir toucher les objets. Cela n'a pas suffi à convaincre les autorités. Ota Kachkouté, directrice des musées nationaux, est dépitée.
Je ne vois pas la différence entre les centres commerciaux qui affirment prendre toutes les précautions nécessaires et nous. Nous prenons aussi des précautions. Pourquoi peuvent-ils être ouverts et pas nous? Et puis les musées ont une fonction sociale. Les gens pourraient venir et enfin oublier le stress dans lequel ils sont plongés en permanence aujourd'hui.
Près de 500 000 visiteurs et 1 million d'euros de recettes pour les musées nationaux. L'année 2019 avait été un cru exceptionnel et la directrice attendait 2020 avec impatience. Ota Kachkouté a alors tout tenté pour attirer le public local au musée.
La tour de Gediminas à Vilnius est un endroit où tout le monde est allé un jour, mais personne ne se souvient quand. On a demandé à un groupe de jeunes musiciens très créatifs et ironiques de créer un clip pour inciter les Lituaniens à retourner visiter cette tour.
La pandémie a accéléré la numérisation des collections. Désormais, chaque nouvelle exposition sera doublée d'une exposition virtuelle identique. La grande rétrospective dédiée à l'archéologue Maria Gimbutas, prévue en 2021, inaugurera cette nouvelle façon de faire.
Robin Renucci, je le rappelle, vous êtes comédien et président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux. La vidéo, les applications qui permettent de diffuser du spectacle en direct, ça permet de compenser la fermeture des théâtres ?
Non, ça ne compense pas. Le théâtre et les lieux de culture sont des lieux où l'homme parle à l'homme depuis la bouche jusqu'à l'oreille. Il peut évidemment apporter un élément supplémentaire pour que les enfants et les adultes découvrent en effet des œuvres. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'on pratique. Et il y a une pratique du spectateur. Il y a un œil qui achève un tableau, qui voit singulièrement quelque chose dans un tableau, déjà à travers sa représentation et le fait qu'il soit transmis par des médias techniques, fait écran. Montaigne disait la parole est de moitié à celui qui la prend et à celui qui l'écoute. Pour que le spectacle existe vraiment, il faut qu'il se passe en direct, dans un lieu, en présence à la fois des artistes et de ceux qui le reçoivent.
Une dernière question, Robin Renucci. La culture en France représente 2,3% de l'économie, 2,7% de la population active. Le spectacle vivant avec la musique arrive troisième derrière l'audiovisuel et l'édition. C'est donc un secteur d'emploi important. Quel est l'état de ce secteur des arts vivants, là, plus de 8 mois après sa mise à l'arrêt?
Je pense qu'il est très atteint, il est à genoux. Il est à genoux comme le sont d'autres secteurs, celui de la restauration, bien sûr. Mais c'est au plan, je dirais, du retard qu'il y aura à retrouver pour le compenser, comme c'est le cas pour la recherche qui est très abîmée. L'université aujourd'hui en France est extrêmement abîmée. Les lieux d'art sont des lieux où l'on pense le monde un tout petit peu en avance. On en fait un petit pas de côté très souvent pour le raconter, ce monde, et cela fait ouvrir parfois des découvertes philosophiques, sociales, qui peuvent transformer les choses. Il est atteint. Notre monde de l'art est atteint parce qu'il manque de direction. Nous avons beaucoup espéré avec le président Macron, d'autant plus qu'il était très lié au champ de l'éducation nationale, de par son épouse, d'un président qui serait le président, comme j'ai nommé tout à l'heure pour Charles de Gaulle et son ministre Malraux, ou bien François Mitterrand et Jack Lang, un président qui serait très très empreint de cette dimension culturelle et éducative. Ça n'a malheureusement pas été le cas jusqu'à présent.
Robin Renucci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes comédien, metteur en scène, directeur du Centre Dramatique National Itinérant Les Tréteaux de France et depuis 2017, président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir 2 ou 3 bonnes critiques.
Et on se quitte avec Grand Corps Malade et ce morceau au théâtre. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À demain.
Tu côtoies les bons comédiens et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, ingratitude du deuxième acte. Tu l'as compris sur les planches, c'est la cour de création. Dans toutes les situations, tu dois faire preuve d'adaptation. Dans un monde où le prévisible perd souvent le contrôle, le bon comédien est celui qui sait jouer tous les rôles. Et c'est là qu'intervient celle qui donne du sens à ta pièce. Sous les feux de la rampe, ta prétendante met tes attentes en liesse. Tout prend de l'importance, c'est ce que ton monologue indique. Fini le théâtre de boulevard, tu tiens ta tragédie antique.